Vous écoutez le quotidien des quotidiens.
Un autre nom qui fait couler beaucoup d'encre ces temps-ci, tiré de son album de 2014, c'était la pièce No More My Lord par Betty Bonifaci.
Pour ce volet culturel de l'émission, on reste d'abord en région pour parler de théâtre d'été. On n'en parle pas beaucoup, mais ça peut être une sortie très intéressante. Marie-Ève Lambert de La Voix de l'Est partage une critique dithyrambique. Représailles au théâtre de Rougemont, magnifique Raymond Bouchard. Vendredi soir, on a commencé à croire au miracle, un peu parce que Raymond Bouchard nous a rappelé que le simple fait d'être en vie en était un, mais surtout parce qu'il venait de prouver sur scène qu'il en était un. Devant un public composé de plusieurs de ses proches, au terme d'un vibrant hommage livré par deux de ses meilleurs amis dans le cadre des célébrations entourant ses 50 ans de carrière, le comédien de 73 ans a pris la parole pour simplement partager sa joie de s'émerveiller encore et toujours devant les beautés qui s'offrent à lui chaque matin. On ne pouvait qu'être d'accord avec lui puisqu'on l'était émerveillé devant l'étendue de son talent, unique, naturel, plus grand que nature. Raymond Bouchard ne joue pas, il est son personnage, dans sa façon de parler, de bouger, de réagir, de penser. Bien peu de comédiens arrivent, au théâtre surtout, à faire oublier au public qu'il est spectateur. Raymond Bouchard, lui, y parvient dès son entrée sur scène, aisément en plus, sans même qu'on ne s'en rende compte. Il porte la pièce sur ses épaules et ça ne semble lui peser aucunement. Il semble même éprouver un malin plaisir à jouer son Francis, homme infidèle qui tente de se dépatouiller dans ses mensonges lorsque sa Rose découvre ses infidélités avec Hélène, puis Christelle, puis Eva, jouée par Myriam Poirier. Le soir du mariage de leur fille, Mélissa, Sylviane Rivet-Beauséjour, il faut vraiment le voir se démener pour le croire. Car comme on ne rattrape pas un mensonge avec un autre mensonge, la situation se complique, donne droit à quelques situations loufoques, plusieurs malaises et de nombreuses répliques savoureuses, le tout emballé dans un humour intelligent, celui d'Éric Assou, adapté au Québec par le grand Michel Tremblay et mis en scène par André-Marie Coudou. Mais celui qui donne de la valeur à cette proposition théâtrale, somme toute correcte, c'est, vous l'aurez deviné, Raymond Bouchard. Malgré un personnage qui incitait fortement à surjouer, le comédien d'expérience ne tombe pas dans le piège. Il a toujours le ton d'une extrême justesse. S'il était musicien, il aurait l'oreille absolue. La patate slave, c'est un texte, une chronique en fait de Jean-François Nadeau qui réussit à faire le lien entre le tubercule qu'on mange et cette pièce décriée. Lorsque la pomme de terre partit d'Amérique pour conquérir l'Europe, elle fut froidement reçue par bien des estomacs. La patate avait, pour les fins palais, un goût difficile à apprivoiser. C'est ainsi qu'elle servit d'abord à nourrir les animaux, puis les pauvres gens, des êtres guère mieux traités que des bêtes. Mais la facilité avec laquelle on la cultivait fit en sorte d'infléchir les goûts. Même Louis XIV, le roi Soleil, finit par prendre l'habitude d'en consommer au petit déjeuner afin d'encourager sa cour à en manger. En Italie, on lui trouva quelques vagues ressemblances par la forme et le goût avec la truffe. Ce qui laisse croire que les tubercules consommés ne devaient pas toujours être bien frais. En italien, cette truffe d'un nouveau genre fut nommée, selon les régions, tartufole, tartufola, tartoffelle. À la cour du roi de France, les courtisans, toujours empressés de se faire remarquer, se mirent à porter à leur boutonnière des fleurs de tartoffelle, un peu comme Pierre-Éliott Trudeau portait des roses à la sienne. Ces têtes de truffes, croyant avoir de l'élégance en se comportant comme des patates, inspirèrent à Molière son Tartuffe, le personnage hypocrite, imposteur et fourbe que l'on sait. En 1694, faute de pouvoir compter sur le TNM, le marquis de Frontenac voulut faire jouer à Québec cette pièce. Né la même année que Molière, habitué comme lui du palais de Versailles, Frontenac était homme de beaucoup d'esprit, mais parfaitement ruiné, soutient Saint-Simon dans ses mémoires. Sa femme l'était davantage, ce qui ne l'empêchait pas de continuer à se comporter comme une insupportable divine. C'est ainsi, dit encore Saint-Simon, qu'on avait pu convaincre Frontenac d'aller vivre à Québec plutôt que de mourir accroché au bras d'une divine. Le lieutenant Jacques de Mareuil avait annoncé l'intention de monter Tartuffe. Il trouva sur son chemin Monseigneur de Saint-Vallier, décidé à interdire ce théâtre, se croyant autorisé par Dieu à dénoncer quiconque voudrait en parler à sa place. Un mandement accusatoire est donc lu contre de Mareuil. Le lieutenant est arrêté et séquestré avant d'être libéré puis renvoyé en France par le premier bateau. C'est ainsi que les reins du théâtre furent cassés. Il ne s'en releva que plus d'un siècle plus tard, et encore avec difficulté. Monseigneur de Saint-Vallier avait gagné, et avec lui la tartufferie, cette hypocrisie de tous les temps qui permet de plaider au premier venu l'étendue de sa fausse vertu. Ainsi en va-t-il de cette nouvelle guerre culturelle qu'on a vue se déployer autour de Slaves. Dans un monde où les identités sont de plus en plus métissées, comment peut-on aujourd'hui se croire les seuls dépositaires et gestionnaires des douleurs d'une portion de l'histoire universelle? Les salaires du plus grand nombre restent maigres, le taux de syndicalisation baisse, les banques alimentaires ne fournissent pas, les prisons débordent. Un tiers de la population carcérale est composée de gens issus des Premières Nations. Les écoles se trouvent dans un état pitoyable, l'environnement fout le camp, mais on voudrait faire croire que le scandale de l'heure, celui qu'il est urgent de dénoncer, ce sont des chanteurs qui s'efforcent de communiquer sur scène un des grands chants de la douleur humaine. « Ma grand-mère eut-elle tort de chanter le célèbre Old Man River de Paul Robeson lorsqu'elle souffrait de son quotidien? Johnny Clegg, un blanc aussi, ne pouvait-il pas chanter sa passion d'inspiration zoulou? Leonard Cohen pouvait-il chanter un Canadien errant? Juifs, gitans, homosexuels et gauchistes doivent-ils être les seuls autorisés à parler des camps d'extermination nazis du fait qu'ils en furent les principales victimes? Répondre oui, ce serait oublier que c'est l'humanité tout entière qui porte sur elle les stigmates et le déshonneur de toutes les formes de barbarie. Au sujet de Slav, le chanteur Moses Sumney a écrit en anglais qu'il n'existe aucune circonstance où il est acceptable que des Blancs interprètent des chansons d'esclaves noirs, spécialement si ceux-ci sont habillés en pauvres travailleurs des champs ou en cueilleurs de coton et sous la direction d'un Blanc de surcroît. L'histoire du monde ne se joue pourtant plus à un stade où cette idée tordue de race doit permettre de dresser des murs inamovibles entre les humains. Il est certes difficile, au milieu de pareils appels à la censure, d'établir un bilan suffisamment nuancé pour qu'on puisse même le croire tel. En retirant un spectacle parce qu'il déplaît à certains, on a donné beau jeu à des gens qui ont sans doute bon cœur, mais qui n'en sont pas moins d'odieux censeurs. Convenons tout de même que, sans aller jusqu'à justifier la censure, ils n'ont certainement pas tout faux. En 2009, la Commission des champs de bataille, un organisme fédéral, s'était mis dans la tête de souligner à tout prix le 250e anniversaire de la défaite des Plaines d'Abraham. Au programme, un grand spectacle en plein air, avec figurants en uniforme. Personne du côté d'Ottawa ne semblait voir ce qui pouvait y avoir d'outrageant là-dedans. Ce fut Pierre Falardeau qui porta un coup mortel à l'affaire, bientôt appuyé par des militants, des associations, des syndicats. Rejouer les termes du malheur au nom d'une fête, en l'occurrence ici un festival de jazz, oui, cela peut susciter des douleurs. Ce n'est tout de même pas une raison pour que nos efforts de vivre ensemble fassent soudain patate. Manon Dumais signe quant à elle une critique intitulée « Réalisatrice contemporaine, parole de femme ». Si certains croient encore que l'iniquité pour les femmes en cinéma n'est qu'une vue de l'esprit, sans doute seront-ils désarçonnés par les témoignages de dizaines de réalisatrices, toutes générations et nationalités confondues, qui fusent dans ce conventionnel mais non moins percutant documentaire de la cinéaste Guylaine Dion, qui a aussi réalisé « Les fantômes des Trois Madeleines, serveuse demandée », et de Rosanna Mole, professeure agrégée d'études cinématographiques à Concordia. Présentée à l'occasion du cycle « Femmes-femmes » à la Cinémathèque québécoise, réalisatrice contemporaine « L'état des choses » témoigne avec force de la discrimination dont sont victimes encore aujourd'hui les réalisatrices à l'aide d'un nombre impressionnant de témoignages, d'extraits de conférences et d'entrevues, d'images d'archives et de photos de plateau. Certes, toutes s'entendent pour dire que la situation s'est améliorée et continue d'évoluer dans le bon sens. Hélas, cela semble se faire plus lentement que sûrement. Ponctuellement, on rappelle quelques chiffres navrants pour réveiller les consciences et faire avancer les choses. Une seule femme a gagné l'Oscar de la meilleure réalisation, Catherine Bigelow en 2010 pour Des mineurs. Et deux femmes ont gagné une Palme d'or, Jane Campion en 1993 pour La leçon de piano, qu'elle a dû partager avec Chen Kagi, et Agnès Varda, lauréate d'une Palme honorifique en 2015. À la dernière édition du Festival de Cannes, Cate Blanchett, présidente du jury, et 81 femmes du milieu du cinéma ont fait sensation lors de la Marche des femmes pour rappeler que seulement 82 femmes s'étaient retrouvées en compétition en 71 ans d'histoire. Chez nous, l'organisme Réalisatrice Équitable lutte patiemment depuis 2007 pour atteindre l'équité pour les femmes dans le domaine de la réalisation. D'un commun accord, l'ONF, Téléfilm Canada et la SODEC ont mis sur pied des plans d'action pour atteindre la parité homme-femme d'ici 2020. En attendant, elles font quoi, les réalisatrices? Peu importe leur provenance, leur notoriété, leur âge, le mot d'ordre est de faire toujours plus que les hommes afin de prouver qu'elles méritent la place qu'elles réclament dans le merveilleux monde du cinéma, et ce, tout en supportant le sexisme systémique et les médias qui font parfois davantage plus de cas de leur situation familiale que de leurs œuvres. En unissant toutes ces voix, dont celle de Micheline Langteau, d'Anaïs Barbeau-Lavalette et de Chloé Robichaud, Guylaine Dion et Rosanna Mole n'ont peut-être pas signé un chef-d'œuvre impérissable, mais elles ont certainement fait œuvre utile. Alors que chacune de ces voix paraît se faire écho des autres, nul ne peut plus faire la sourde oreille devant l'état de la situation des réalisatrices d'ici et d'ailleurs. De l'anecdote révélatrice au souvenir douloureux, en passant par la revendication légitime et le simple constat, cette prise de parole au féminin pluriel, ayant nécessité 8 ans de recherche, s'avère un vibrant plaidoyer en faveur de l'équité pour les femmes cinéastes.
Cigarette au bec, du haut du firmament. Tu dois regarder le Québec puis te dire que c'est bien décevant. Quand tu vois les pas bons et tous les petits carriéristes qui se présentent aux élections comme des vrais opportunistes. Mais loin de moi, René, l'envie d'en beurre épais ou de trop te glorifier, le monde l'a déjà assez fait. C'est quand même un peu dommage de voir que de ton héritage il reste juste ma petite chanson puis un boulevard à ton nom. Quand je regarde ma contrée perdue et à l'abandon, sans projet de société, émenée par des pauvres pions, champions de la langue de bois et du politically correct, me semble que c'est pas ça que tu voulais pour le Québec. À part de ça, mon petit poil, la vie est-tu moins plate au ciel, parce qu'ici, les temps sont un petit peu sombres. Je dis ça de même, merde-toi pas dans ta tombe. Cette grande révolution qui a mis le Québec à l'heure de toutes les modernisations. Tu dois être franchement déçu de voir qu'on retourne en arrière. Vous qui vous étiez battus pour qu'on soit maître de nos affaires. Pour ce qui est de la souveraineté, on peut pas dire que c'est la fièvre. Le projet s'est mal renouvelé et on en parle du bout des lèvres. Mais quoi qu'avoir les extrémistes qui se réclament patriotes avec leur discours passé, je me dis qu'on est loin du jackpot. Si on regarde ça, René, les enjeux ont bien changé. Et les jeunes se conscientisent, faudrait écouter ce qu'ils disent. Et que pour bâtir un pays, faudrait pas oublier d'inclure les citoyens des autres ethnies et leur culture. À part de ça, mon petit poil, la vie est-tu moins plate au ciel? Parce qu'ici, les temps sont un petit peu sombres. Je te dis ça de même, mais revire-toi pas dans ta tombe. Le projet idéal serait de garder les droits acquis et les bases fondamentales de la social-démocratie, tout en restant vigilant face au courant mondialiste, mais bien sûr sans pour autant devenir anticapitaliste. Moi je ferais un pays qui ferait un compromis entre les mots écologie, justice et économie. Parce que bien avant ma patrie, toutes les politiques aillent, je prends des causes humanitaires et je suis amoureux de la terre. Alors je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi ça a bien du sens. Faire quelque chose de rassembleur qui ferait de nous des innovateurs. Une société plus équitable où le développement serait durable. Et là c'est sûr que je cocherais oui pour un pays. Fait que d'ici là, je prends ce qui me reste de ma fierté de Québécois. Et je te dis René, à la prochaine fois. Et je nous dis, à la prochaine fois.
Lettre Lévesque, formation Les Cowboys Fringants, tiré de leur album de 2004 qui s'intitule La Grand-Messe.
Allez, on parle maintenant de culture, de société et des étranges retombées du second plus grand événement sportif sur Terre après les Olympiques, j'ai nommé le Mondial de soccer. Eh bien, sachez, et c'est Annabelle Caillou du Devoir qui le rapporte, qu'il y a plus de violences conjugales pendant la Coupe du Monde. Qualifiée pour la demi-finale de la Coupe du Monde, l'Angleterre affrontera la Croatie mercredi. Un rendez-vous attendu par les passionnés de soccer, mais redouté par de nombreuses femmes, plus à risque d'être victimes de violences conjugales pendant les grands événements sportifs. Si l'Angleterre est battue, elle le sera aussi, indique une publicité choc qui représente une femme dont les coups portés au visage ont tracé une croix rouge de sang sur sa bouche, dessinant ainsi le drapeau britannique. La campagne de prévention a été lancée par le National Center for Domestic Violence, le NCDV, au Royaume-Uni, pendant que les Three Lions multipliaient leurs exploits sur le terrain en Russie. L'organisme souhaite sensibiliser la population en rappelant que les cas de violence conjugale augmentent de 26 % lorsque l'Angleterre gagne et de 38 % quand elle perd. Les chiffres s'appuient sur une étude de l'Université de Lancaster publiée dans le Journal of Research in Crime and Delinquency en 2014 et qui se base sur les plaintes signalées à la police lors des dernières Coupes du Monde en 2002, 2006 et 2010. Un phénomène alarmant qui trouve écho dans le monde entier. La campagne du NCDV montre aussi la photographie d'un pansement qui recouvre une blessure rougeâtre prenant la forme du drapeau suisse sur le visage d'une femme, ou encore celle d'un gros hématome sur une épaule, à l'image du soleil rouge sur le drapeau du Japon. Au Canada, une étude de l'Université de Calgary, publiée en 2017, a également constaté que les violences conjugales augmentaient dans d'autres sports. C'est le cas durant le Stampede, le plus grand rodéo en plein air du monde, et quand l'équipe de football de Calgary se retrouve sur le terrain. Les chercheurs ont noté une hausse de 15 % quand les joueurs du Stampede de Calgary affrontent leur principal ennemi, les Eskimos d'Edmonton. Les chiffres grimpent à 40 % si l'équipe atteint la finale de la Coupe Grey. Le sport en soi n'est pas un déclencheur de ces violences, notent les différentes études. L'alcool qui coule à flot pendant ces moments particulièrement remplis d'émotions serait davantage un facteur à considérer. On parle d'hommes qui ont déjà un potentiel de violence à l'intérieur d'eux. Quand leur équipe joue, il y a cette idée de masculinité, de rivalité. L'alcool n'aidant pas, ils se désinhibent complètement et perdent toute notion de responsabilité, explique Stéphanie Vallée, présidente de l'Aire des Centres des Femmes du Québec, qui vient en aide aux victimes de violences conjugales. De son côté, la responsable du soutien clinique pour SOS Violences Conjugales, Claudine Thibodeau, montre du doigt l'ambiance sexiste dans laquelle baignent les événements sportifs. Il y a beaucoup de publicités qui viennent augmenter ce sentiment de légitimité du pouvoir de l'homme avec des publicités sexistes qui dévalorisent les femmes. Elle précise qu'il est difficile de faire le lien entre la violence conjugale et le sport au Québec, puisque peu d'études se sont penchées sur le sujet. Les hausses d'appels qu'enregistre son organisme, oui, sont plutôt liées à des événements médiatisés. On a eu plus d'appels quand on parlait de l'affaire Guy Turcotte. Des fois, c'est en lien avec des téléromans qui parlent de violence conjugale. Ça encourage à appeler, indique-t-elle. Et vous savez ce qui m'inquiète le plus dans cette nouvelle-là? C'est que je l'ai trouvée dans la rubrique « Sport du devoir ». Les professions les plus traditionnelles ne sont plus ce qu'elles étaient. Alexandre Moranville-Ouellette nous apprend dans le Journal de Montréal que les algorithmes remplacent peu à peu les boulangers. Le métier de boulanger n'est plus ce qu'il était. Désormais aidé par des algorithmes et des robots à pâtes, ces spécialistes doivent innover afin de trouver le compromis entre l'artisanat et la technologie. Les changements n'ont pas fait l'unanimité à la boulangerie L'Amour du Pain. Un temps d'adaptation a été nécessaire pour les artisans du commerce de brossard afin de faire la transition d'une fabrication entièrement à la main à celle supervisée par un système informatique. L'entreprise n'a plus le temps de pétrir la pâte à la main pour desservir ses 4 points de vente ainsi que les quelques 80 magasins. Plusieurs pétrins de grands malaxeurs, d'une capacité allant jusqu'à 250 kg, se chargent de cette tâche. Un écran tactile calcule automatiquement pour le boulanger la qualité de chaque ingrédient à mettre en se basant sur les ventes de l'entreprise en temps réel. Grâce au système, il est possible de suivre la traçabilité des produits partout au Québec et ainsi savoir précisément la quantité de pain et de pâtisserie à faire, détaille David Ruby, cofondateur de l'entreprise Solution KPI. Ces derniers, partenaires de la boulangerie depuis près de 4 ans, sont à l'origine de l'algorithme numérique du système. Or, le défi est de garder l'aspect artisanal malgré la technologie. Évelyne Trempe, présidente de L'Amour du Pain, assure que les standards de son entreprise demeurent assez élevés pour mériter le titre d'artisanal. Lorsque nous avons décidé de produire à plus grande échelle, nous avions comme dilemme d'augmenter la production tout en maintenant la grande qualité de nos produits et qui faisait notre réputation, raconte Mme Trempe. Nous nous sommes donc penchés sur les recettes artisanales de ceux-ci et avons décidé d'en garder les étapes cruciales. C'est pour cette raison que certaines procédures s'ajoutent lors de la fabrication. Par exemple, les pétrins sont réglés sur une vitesse moins rapide afin d'obtenir un pétrissage plus lent. Nos pains sont basés sur des recettes ancestrales. Dans celles-ci, le boulanger pétrirait la pâte plus lentement. Alors la machine le fera aussi, explique la présidente. Malgré l'économie de temps apportée par la numérisation et la mécanisation du processus de fabrication, ces changements n'ont pas toujours été bien accueillis. Les artisans boulangers ont souvent une manière de faire très routinière qu'il ne faut pas troubler. Ils sont donc réticents au changement, explique Evelyn Tromp. Ils ont cependant fini par réaliser les avantages du système numérique et peuvent maintenant investir plus de temps en recherche et développement de nouveaux produits, explique David Robbie. Le yoga, le mantra de l'éducation physique de notre époque. Alors, les dérives possibles de la yoga mania, c'est le titre de Sylvie Saint-Jacques, une collaboration spéciale au Devoir. Depuis que le yoga a gagné la faveur du grand public à la fin des années 90, ses multiples variations nous en font voir toutes les couleurs. Dans cette foulée, l'invasion du marketing et l'émergence de scandales à caractère sexuel visant des gourous de renom bouleversent profondément l'écosystème yogique. Regard sur un phénomène où bien-être, santé, spiritualité, avidité et abus de pouvoir s'entrechoquent. Au moment d'ouvrir son studio sur le boulevard Saint-Laurent au début des années 2000, Lynn Saint-Roch détenait, si l'on peut dire, le monopole de l'enseignement francophone du yoga à Montréal. Bien sûr, il y avait le centre Sivananda à quelques coins de rue au nord, une institution fondée au début des années 60 par Vishnu Devananda, un authentique swami formé dans un ashram de Rishikesh en Inde. Mais Hélène Saint-Roch, qui était entraîneuse privée avant de s'initier au yoga en Californie au début des années 90, arrivait avec une pratique plus occidentalisée du yoga, plus physique que religieuse. Elle a ouvert la voie au Québec en offrant des cours très courus dans des gyms et des studios de danse de Montréal. Quand je suis revenu de Californie et ai suggéré d'ouvrir une classe de power yoga à la cité, le gym où j'enseignais, j'ai surtout rencontré des préjugés. En m'entendant prononcer le mot yoga, les gens ironisaient spontanément avec des « associant cette pratique à des cheveux longs et du granola. Moi, je savais très bien que le yoga n'avait rien à voir avec ça. Et vous l'entendez, le temps qui nous est compté ne me permet pas de terminer cet article. Sachez simplement que les studios de yoga se sont tellement multipliés que les gens maintenant trouvent tout à fait normal d'avoir des cours gratuits, mais d'acheter des leggings à 200 $.